RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Dans l'est de l'Ukraine, c'est l'accalmie, mais les accrochages sporadiques se produisent encore, quasiment tous les jours, entre les forces pro-russes et les loyalistes. L'armée ukrainienne dénonce une concentration de troupes séparatistes le long de la ligne de front, notamment près de Mariupol, dans l'extrême sud de la région de Donetsk. Ce port industriel d'un demi-million d'habitants sur les bords de la mer Azov, à une cinquantaine de kilomètres de la Russie, est la dernière grande ville de la zone de conflit encore contrôlée par Kiev. Avec ses usines métallurgiques et son port, Mariupol constitue un enjeu de taille. Sa prise serait aussi une étape clé dans la création d'un pont terrestre entre la Russie et la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée voilà un an par Moscou. Autant d'arguments qui soulèvent l'inquiétude de la population. Guerre en Ukraine, Mariupol dans la ligne de mire. Voici le reportage d'Anastasia Becchio, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure.
Un promontoire battu par les vents. D'un côté, la mer, de l'autre, un terrain vallonné où des tranchées ont été fraîchement creusées. La ligne de front est à moins de 2 km. Juste derrière la colline, le village de Chirokine, à 10 km à l'est de Mariupol, a été le théâtre de violents combats le mois dernier. Aujourd'hui, le calme est revenu.
La calme est trompeuse. Si vous avez peur, cachez-vous derrière moi, j'ai un gilet pare-balles.
Dans une ambiance détendue, le service de communication de l'armée ukrainienne emmène un groupe de journalistes sur ce qui constitue la première ligne de défense de Mariupol. Au milieu des tranchées, un soldat répare un char d'assaut à moitié enterré.
On est là, mais on n'a pas le droit de tirer. On a retiré l'artillerie lourde, mais les armes légères sont restées. Du coup, on passe notre temps à réparer le matériel.
Le commandant de l'unité, Alexandre, alias Sansanich, scrute l'horizon. En dépit de la trêve et de l'annonce par les deux camps du retrait des armes lourdes, des échanges de coups de feu se produisent régulièrement à Chirokine.
J'ai passé la nuit à faire le guet. Il y a eu quelques échanges de coups de feu, des tirs d'armes automatiques, du léger, quoi. Je n'ai pas entendu d'artillerie lourde. Et maintenant, c'est l'accalmie. Et puis, avec ce temps, les tireurs embusqués ne peuvent pas travailler. C'est pourquoi on se promène ici tranquillement, sans avoir peur. Le vent souffle trop fort pour qu'ils puissent tirer.
Même si l'ambiance semble détendue, pas question pour les soldats de se relâcher. Les positions séparatistes sont toutes proches. Cette zone, déjà bombardée par le passé, pourrait être le prochain terrain de bataille si les forces pro-russes décidaient de pousser l'offensive jusqu'à Mariupol, explique le commandant des unités ukrainiennes déployées à Chirokine, qui se fait appeler Sobol, l'hermine.
Ils n'arrêtent pas d'affirmer que Mariupol est pour eux un lieu stratégique important tant d'un point de vue économique que politique. C'est pourquoi on se tient prêt. Or, le meilleur des gilets pare-balles au monde, c'est l'abri souterrain. C'est pourquoi on creuse des tranchées. On continue d'améliorer nos fortifications. Les pelles mécaniques et les bulldozers fonctionnent à plein régime pour nous aménager des lieux qui nous protégeront en cas de nouvelle attaque aux mortiers ou aux missiles Grad.
Les attaques aux missiles Grad, le village de Lebedinske au nord-est de Mariupol en a connu beaucoup le mois dernier. La zone est aujourd'hui contrôlée par le bataillon Krivbas, un bataillon de volontaires dépendant du ministère de l'Intérieur, venu de Krivyi Rih dans la région de Dnipropetrovsk. L'unité s'est installée dans un centre culturel du village, à quelques kilomètres de la ligne de front. Le bâtiment porte encore les stigmates des combats. Alexandre Rovenko, 50 ans, ancien policier, s'est récemment engagé dans le bataillon.
Ça, ce sont des éclats d'obus. L'explosion s'est produite ici. Les vitres ont sauté. Là-bas, il reste une femme dont les deux enfants ont été tués par l'obus. Nous sommes chargés de contrôler cette partie de la ligne de front, cette zone qui nous a été confiée. Notre objectif est de faire en sorte de les contenir pour qu'ils ne puissent pas atteindre Mariupol. Là-bas, c'est le commandant de notre unité, un officier du génie de combat qui a même servi en Afghanistan. Il est couvert de décorations, de médailles.
Je m'appelle Igor, j'étais colonel dans la police, mais du temps de notre très honorable Viktor Yanukovych, très honorable entre guillemets bien sûr, j'ai décidé de démissionner et je suis parti à la retraite. Ici, dans notre unité, on a environ 35% de policiers qui ont décidé de se mettre en disponibilité pour servir volontairement dans ce bataillon ou qui étaient comme moi à la retraite. Mais tout le reste, ce sont des gens d'horizons sociaux très divers. Il y a des ouvriers, des employés, des gens qui occupaient des postes de directeurs dans des usines métallurgiques ou des mines. Il ne faut pas laisser le mal s'infiltrer à l'intérieur de notre pays.
Longs cheveux blonds, lâchés sur une veste de treillis, Jadwiga Gdanska, la petite quarantaine, est la seule femme du bataillon. Son lit de camp est installé dans un renfoncement de la grande pièce où une trentaine de matelas est alignée le long du mur. Les fenêtres sont obstruées par des sacs de sable. L'ancienne policière, membre du groupe paramilitaire ultranationaliste Pravi Sektor, a combattu du côté de Pisky, près de l'aéroport de Donetsk, avant d'arriver ici.
Dans mes cauchemars les plus noirs, je n'aurais jamais pu imaginer que je devrais un jour me battre, et surtout contre ces personnes-là. C'est une guerre absurde. Il y a des forces qui ne laisseront tout simplement pas transformer Mariupol en nouveau débat de CV. Ici, nous avons des unités où il y a beaucoup de patriotes, des gens qui sont prêts à tout, qui se battront jusqu'au bout. Il y a par exemple le bataillon Azov.
Le bataillon Azov, à la réputation controversée, a installé sa base dans une ancienne école de Mariupol. Cette unité paramilitaire, placée sous le commandement du ministère de l'Intérieur, est financée par le gouverneur de Dnipropetrovsk, l'oligarque Igor Kolomoïski. Plusieurs rapports de l'ONU et d'Amnesty International publiés ces derniers mois ont dénoncé des exactions commises par des membres de ce bataillon. Très actifs sur le front comme dans la ville, ces membres affichent leur détermination, à l'instar d'Alexei, 22 ans, alias le danseur, qui porte sur sa manche gauche l'emblème du régiment avec deux symboles utilisés par les nazis, le Volksangel et le soleil noir.
Nous sommes prêts à utiliser les méthodes les plus radicales pour obtenir la victoire, c'est-à-dire libérer l'Ukraine. Nous ne nous calmerons que lorsque sur le territoire de l'Ukraine, il n'y aura plus de mercenaires venus d'Ossétie, de combattants tchétchènes et autres Daghestanais, et quand il n'y aura plus de troupes russes régulières ici. C'est notre terre, c'est ma maison. Actuellement, ça a beau être le cessez-le-feu, mais on sait que leurs renseignements fonctionnent à plein régime. Chaque jour, des drones traversent la zone tampon et se retrouvent au-dessus de notre territoire, et ils étudient les positions des troupes ukrainiennes. Ils mettent à profit ce temps pour se préparer.
Mariupol bruisse régulièrement de rumeurs sur une offensive imminente des forces pro-russes. Il arrive que les bruits des combats de Chirokine résonnent jusque dans le centre-ville. Sur les façades d'immeubles, des flèches accompagnées du mot « abri » ont été peintes en rouge. Plusieurs fois par semaine, le maire Yuri Kotloubey réunit les représentants de l'armée, des bataillons, de la police, des services de secours et les volontaires pour faire le point sur la situation dans la ville. Parmi les points évoqués, des exercices de protection de la population en cas d'attaque.
Le but est d'apprendre à la population, aux enfants, aux écoliers, comment se comporter en cas de danger, en cas d'attaque d'artillerie lourde. Nous savons bien que la paix n'est pas revenue. Tout près de la ville, nous avons toujours d'importantes forces de combattants de la République autoproclamée de Donetsk, qui sont là avec leurs armes venues de Russie.
Les entrées nord et est de la ville sont particulièrement contrôlées. Derrière de gros blocs de béton et de sacs de sable, des soldats armés de fusils automatiques arrêtent les automobilistes et fouillent les véhicules suspects. Les lieux stratégiques comme les ponts, les usines métallurgiques ou le port bénéficient d'une surveillance renforcée. La police, elle, patrouille dans la ville à la recherche de saboteurs et se militarise à grands pas. Manier un fusil automatique, tenir un siège, les exercices se multiplient pour les forces de l'ordre. Autre priorité, lutter contre les idées séparatistes encore présentes dans les rangs de la police, comme l'explique Vladimir Bogonis, combattante du bataillon Donbass, qui dirige désormais la police d'un quartier de Mariupol.
Je vais vous dire franchement, notre priorité, c'est la lutte contre le séparatisme. On essaye de le démasquer en parlant avec les gens, en leur posant des questions, en analysant les humeurs. Aujourd'hui, j'ai eu une réunion avec mes commandants. Je les ai chargés d'établir un portrait psychologique de chacun de leurs subalternes. Maintenant, ce sont les commandants qui devront répondre de leurs hommes.
«
L'hymne ukrainien résonne sur l'avenue Lénine. De la statue du père de la révolution russe, il ne reste plus qu'un socle en marbre. Les nationalistes ukrainiens l'ont déboulonné. Sur une scène dressée juste devant, les orateurs se succèdent. Mais la manifestation de soutien à Nadejda Savchenko, la pilote ukrainienne emprisonnée en Russie, n'a pas déplacé les foules. Les forces patriotiques ukrainiennes ont du mal à mobiliser, regrette Lydia Yosifovna, professeure de mathématiques à l'université de Mariupol, aujourd'hui à la retraite.
Ce matin, je me suis dit, tiens, qui pourrais-je inviter de mon immeuble à venir à cette manifestation? Eh bien, personne. Personne. Mes voisins écoutent la radio russe et regardent la télé russe. Je ne comprends pas d'ailleurs où ils la trouvent. Moi, je n'ai pas les chaînes russes et c'est tant mieux. Parce que c'est impossible d'écouter ces reportages honteux qui expliquent qu'ici on mange les enfants ou qu'on découpe les jeunes femmes en morceaux pour en faire des raviolis. J'ai honte qu'il y ait de telles personnes à Mariupol qui ne comprennent rien.
Veste de camouflage, bonnet bleu sur la tête et pantalon de sport, Mikhail Naprienko ne ressemble pas vraiment à un homme d'église. Il est pourtant pasteur de l'église protestante Le Mot et la Foi à Mariupol. Mais aujourd'hui, il passe plus de temps dans les tranchées que dans son temple. Chaque jour vers midi, il charge plusieurs gros chaudrons et des dizaines de boules de pain dans sa voiture. Direction les campements des forces ukrainiennes.
Ce sont des militaires qui viennent défendre notre ville et que nous accueillons dans notre région. C'est notre devoir de nous préoccuper de leur bien-être. C'est pourquoi nous faisons tout ce que nous pouvons pour les aider.
Au barrage numéro 15, à la sortie du village de Vinogradnoïe, à l'est de Mariupol, le pasteur Mikhaïl est accueilli comme l'un des leurs par les soldats de la garde nationale, d'ordinaire très méfiants. Les chaudrons encore chauds sont rapidement descendus dans l'abri souterrain creusé au milieu des tranchées qui sert de réfectoire et de cuisine au bataillon. Une dizaine de militaires est déjà attablée devant des bols en plastique posés sur une toile cirée aux motifs floraux. Parmi eux, un grand gaillard au visage poupin, Mikola, 21 ans, de la région de Kherson.
Cette aide du père Mikhaïl est très importante. Sans lui, ça serait très difficile pour nous, et physiquement et moralement. Quand il vient ici, on sent qu'on est soutenu et tout de suite, nous retrouvons notre esprit combatif.
Devant une bâche qui cache en partie le campement militaire aux yeux des automobilistes arrêtés au barrage, Igor attend le pasteur Mikhaïl. Son unité va être relevée demain. En guise d'adieu, il demande à son bienfaiteur d'inscrire un petit mot sur un drapeau ukrainien qu'il emportera avec lui.
Ça nous rend plus disponibles au combat, comme on dit. Sans ces repas chauds quotidiens, nous ne pourrions pas remplir nos obligations de la même façon. C'est très important. Quelle que soit la situation, que ça bombarde ou non, le père Mikhaïl vient nous voir, nous aider et nous nourrir. Il est devenu un proche pour nous tous. Mais je comprends bien, et nous tous ici savons bien qu'il n'est pas seul et que derrière lui, il y a de nombreuses personnes qui nous aident à accomplir notre tâche délicate.
L'un des centres névralgiques des associations de volontaires se trouve en périphérie de Mariupol. À sa tête, un homme, notaire de profession, qui a troqué son costume-cravate pour un treillis.
Je m'appelle Ruslan. Parfois, les collègues volontaires m'appellent Ruslan Borsch. C'est parce que mes vêtements sentent fort la soupe et les odeurs de cuisine. C'est pour ça qu'on m'a donné ce surnom, Ruslan Borsch.
Le borscht, la soupe traditionnelle à base de betterave, embaume jusque dans la cour de l'orphelinat située en périphérie de Mariupol, vidée de ses occupants en raison des opérations militaires toutes proches. Ici, une armée de volontaires prépare chaque jour 700 repas chauds pour les militaires.
Nous ne voudrions pas que vous donniez la localisation exacte de ce lieu. C'est une information que nous tenons un peu secrète vis-à-vis des autorités municipales. Nous prenons ces précautions parce qu'il y a un sentiment séparatiste dans la ville. Or, en introduisant dans nos cuisines des personnes inadéquates, on peut nuire à 700 personnes. C'est pourquoi on s'efforce de ne pas inviter de personnes étrangères au service. Les gens qui viennent ici sont soit des personnes qui nous ont été recommandées, soit des personnes qu'on connaît personnellement.
Dans l'une des pièces, le plat principal mijote dans de grosses casseroles rectangulaires. Ingénieurs, ouvriers, coiffeuses, agents immobiliers ou retraités, plusieurs dizaines de personnes se relaient chaque jour ici, qui pour éplucher des pommes de terre, qui pour préparer des boulettes de viande. Nadejda coupe des tomates, elle est ouvrière à l'usine métallurgique. Avant d'aller travailler à 18h, elle est venue passer quelques heures en cuisine.
Cette activité, je n'en parle pas au sein de mon usine, parce que les gens ne comprendraient pas vraiment. C'est mon petit secret. Les gens qui travaillent à l'usine, en général, ne vivent qu'à travers la télévision russe qu'ils regardent. Et c'est peine perdue de leur expliquer quelque chose. Moi, je considère que le séparatisme, ça n'est pas bon. Il ne doit pas y avoir de scission dans notre pays. L'Ukraine doit être unie, et c'est pourquoi nous nous réunissons ici pour travailler. On essaye de faire ce qu'on peut pour aider le pays.
En plein cœur de la ville, une autre association de volontaires est très active, le Nouveau Mariupol. Un drapeau ukrainien flotte au-dessus de l'entrée, devant laquelle une carcasse de missile Ouragan russe a été posée. Ici, les habitants viennent apporter des vivres et des équipements pour l'armée. Des miliciens viennent prendre un peu de repos entre deux entraînements. Des femmes viennent coudre des camouflages pour les soldats. Une palette de la société de plus en plus active, comme le raconte la responsable de l'association, Maria Podibailo.
Ici, vous avez des ouvriers, des ingénieurs, des intellectuels, des jeunes, des retraités. Nous tous, nous avons décidé d'être responsables du devenir de notre ville. Si jamais elle était prise par les pro-russes, ce serait terrible. Nous voyons comment de très bonnes personnes, de personnes normales, se sont retrouvées prises au piège à Donetsk. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus rien faire, ce n'est pas une vie. Nous ne voulons pas connaître le même destin. C'est pourquoi nous avons décidé d'unir nos forces. Il faut au moins essayer, parce qu'il vaut mieux connaître une fin horrible qu'une horreur sans fin.
Guerre en Ukraine, Mariupol dans la ligne de mire, un grand reportage d'Anastasia Becchio, réalisation Boris Vichit.
Anastasia Becchio, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage, vous êtes rentré il y a quelques jours de l'Est de l'Ukraine. Quelle est aujourd'hui la situation là-bas à Mariupol ?
C'est l'inquiétude qui domine, l'impression d'être entre deux. Régulièrement, des tirs résonnent du côté du village de Chirokine, là où on a rencontré ces militaires que l'on entend au début du reportage. Il arrive que des déflagrations soient entendues jusque dans le centre de Mariupol, comme cela a encore été le cas avant-hier. Et cela crée bien sûr une tension au sein de la population. D'autant que la ville a déjà subi des bombardements. Le 24 janvier dernier, un quartier d'habitation, le quartier Vostochny, a été attaqué. 31 civils ont été tués. La mission de l'OSCE a établi que les tirs aux missiles Grad et aux missiles Ouragan provenaient des positions des séparatistes pro-russes, que ces derniers réfutent.
Alors vous évoquez dans votre reportage des sentiments séparatistes. Hein. On entend aussi des volontaires qui font beaucoup pour aider l'armée ukrainienne. Alors quel est le rapport de force dans la ville ?
C'est difficile d'évaluer précisément le soutien de la population aux uns et aux autres. On constate un regain de patriotisme ukrainien depuis plusieurs mois. En août dernier, par exemple, des centaines de personnes étaient sorties creuser des tranchées aux abords de la ville. Il y a ces associations de volontaires qui ont fleuri, qui apportent de la nourriture, de l'eau, des vêtements, voire même des armes aux unités déployées autour de la ville pour la protéger. Mais dans le même temps, on a assisté ces dernières semaines à plusieurs manifestations pro-ukrainiennes à Mariupol. Et on a été surpris de voir qu'elles ne déplaçaient pas vraiment les foules. Notamment une cérémonie en mémoire des victimes du bombardement du quartier Vostochny qui compte 30 000 habitants. Et il n'y avait que 150-200 personnes à cette manifestation. Il faut dire qu'en dépit des expertises des organisations internationales, il reste encore des habitants qui sont persuadés que c'est l'armée ukrainienne qui les a attaqués. Mais aujourd'hui à Mariupol, on n'affiche plus ouvertement ses vues pro-russes, notamment par peur des représailles.
Alors qu'en est-il de la situation militaire ? La ville est-elle réellement en danger ?
Les responsables de la République autoproclamée de Donetsk ont à maintes reprises affirmé que Mariupol devait leur revenir. Les troupes séparatistes se trouvent à une vingtaine de kilomètres à l'est de la ville, sur la côte. Les officiels militaires ukrainiens affirment que les pro-russes massent des troupes dans ce secteur et qu'ils refont leurs forces après la bataille de Debaltseve. Pour l'instant, le cessez-le-feu est plus ou moins respecté. Mariupol est importante à plus d'un titre. C'est une ville industrielle avec notamment deux grandes usines sidérurgiques. C'est aussi l'un des plus grands ports d'Ukraine, situé en face du détroit de Kerch, sous contrôle russe depuis l'annexion de la Crimée. Enfin, la prise de Mariupol serait aussi un verrou qui sauterait dans la création d'un pont terrestre entre la Russie et la péninsule de Crimée, cette péninsule ukrainienne annexée. Mais certains experts sont circonspects sur ce point. Pour arriver jusqu'à la Crimée, il faudra encore avancer sur des centaines de kilomètres. Par ailleurs, la bataille de Mariupol ne se ferait pas sans destruction et sans pertes considérables, ce qui devrait faire réfléchir les stratèges russes ou en tout cas pro-russes.
Ce sera le mot de la fin, un grand reportage, bien sûr, à réécouter sur RFI.fr. Anastasia Becchio, merci beaucoup. Bonne journée. Après Pékin.